Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
Bonjour à tous. En 1958, la France est sans le savoir à un tournant de son histoire. Partisans de l'Algérie française et défenseurs de l'indépendance s'affrontent, tandis que sur le plan ministériel, notre pays a bien du mal à se doter d'un gouvernement stable. Bref, la France est au bord de la guerre civile. C'est dans ce contexte, dont je fais un rapide résumé aux auditeurs, que le général de Gaulle devient président du Conseil en juin 58 avec les pleins pouvoirs pour 6 mois. Il doit non seulement régler la question algérienne, mais aussi doter la France d'une nouvelle constitution. L'enjeu est donc de taille. Pourtant, ce n'est pas sur ces événements politiques ô combien passionnants que je vous propose de revenir aujourd'hui dans Éclairage, mais sur ce que fut la vie quotidienne à l'Élysée au temps du général de Gaulle, car l'ancien hôtel d'Evreux est devenu plus que jamais le centre et le symbole d'un pouvoir étatique fort pendant 10 ans. Pour nous guider dans cette découverte, je suis ravie d'accueillir l'historienne Claude Dulon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre La vie quotidienne à l'Élysée au temps du général de Gaulle, publié chez Hachette. Votre témoignage est d'autant plus précieux que vous avez eu l'occasion d'approcher personnellement le général puisque votre mari Jean Saint-Denis était son ministre aux anciens combattants. C'est le 8 janvier 59 que le général de Gaulle fait officiellement son entrée à l'Élysée et comme c'est encore le cas aujourd'hui à chaque élection d'un nouveau président de la République, le général est accueilli par le président sortant de l'époque, René Coty. Et curieusement, il n'est pas en uniforme militaire mais en costume civil. Or les Français se souviennent surtout de Charles de Gaulle comme le héros militaire de la France libre. Alors comment expliquer ce choix vestimentaire, Claude Dulon ?
Oh mais c'est très simple, il était devenu le président de la République régulièrement élu et ce passage de pouvoir se faisait toujours en jaquette et je crois que ça aurait été une entorse lourde de sens de se présenter en uniforme devant un autre président qui partait en jaquette.
Alors à la lecture de votre livre, on comprend vite que le général de Gaulle a de nombreux griefs contre le palais de l'Élysée. Il ne s'y installe que parce qu'il y est en quelque sorte contraint. Que reproche-t-il à cet ancien hôtel d'Evreux qui est pourtant riche d'histoire, Claude Dulon?
Mais non, justement, il n'est pas très riche de grande histoire. Alors, le général reproche d'abord la situation géographique en pleine ville où le palais est comme enserré dans un quartier de boutiques de luxe, sans aucune perspective pour la vue. Il lui reprochait surtout de n'avoir pas de souvenirs historiques ni de passé glorieux, parce que nous nous rappelons tous que l'Élysée avait été la demeure d'une favorite, Madame de Pompadour, alias Jeanne Poisson, et que c'est elle, ce que les gens ignorent souvent, qu'il avait légué à l'Élysée. Donc voilà de qui nous tenons l'Élysée. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est à l'Élysée que Napoléon Ier, après Waterloo, a signé son acte d'abdication le 22 juin 1815. De Gaulle disait « C'est le seul événement historique qui se soit produit à l'Élysée et il n'est pas exemplaire ». Et puis il y a aussi d'autres souvenirs pas très exemplaires, la démission de Mac Mahon en 1879 et, scandale entre les scandales, un soir de 1899, la mort du président Félix Faure dans les bras de Madame Stenel, une aventurière. Si bien que le général disait de l'Élysée, assez drôlement, c'est un palais de la main gauche. Et il ajoutait, mais plutôt pour faire rire l'entourage, au fond, c'est au Louvre que j'aurais dû m'installer. Ou encore, il soupirait, on ne fait pas l'histoire dans le 8e arrondissement.
Alors finalement, ce ne sera pas au Louvre qu'il s'installera, mais on l'aura compris, le général de Gaulle est plutôt soucieux d'investir un lieu capable de rappeler le passé glorieux de la France. Il pense aux Invalides, il pense également au château de Vincennes. Pour quelle raison le général de Gaulle finalement ne s'y installera pas, Claude Dulon ?
Eh bien, parce que tout ça a été, tous les travaux de restauration et d'aménagement auraient été très longs et très coûteux. Alors d'abord, le général était économe, on y reviendra, et puis on n'avait pas le temps, si je j'ose dire, de perdre du temps en aménagement. Alors, il s'est contenté de l'Élysée.
Certes, les Invalides sont liés à l'histoire militaire de la France, mais n'y a-t-il pas un risque en choisissant ce lieu de donner l'image d'une République française aux mains des militaires ?
C'est possible, je ne peux pas l'affirmer, mais il est possible que cette idée ait traversé l'esprit du général.
Alors, parmi les lieux susceptibles également de plaire au général de Gaulle, il y avait également le Trianon, c'est ça ?
Oui, ça c'était surtout une idée de Malraux.
Parce qu'au même titre que les Invalides sont porteurs d'une histoire militaire, le Trianon, comme tout le monde le sait, a été construit pour Marie-Antoinette. Il est donc porteur, oui, en tout cas c'était lié à la monarchie française. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec l'idée que le général de Gaulle se faisait notamment de la République ?
Non, en tout cas, déjà, le Trianon a un mérite, c'est la demeure d'une reine. Ce n'est pas la demeure d'une favorite comme Madame de de Pompadour. Mais je ne crois pas du tout que le général ait pensé sérieusement au Trianon. C'était une idée de Malraux. Et finalement, on l'a destiné aux hôtes d'honneur.
Alors finalement, c'est à l'Élysée que le général de Gaulle prendra ses quartiers, avec cependant une volonté évidente de se démarquer de ses prédécesseurs. Comment est-ce qu'il y parvient ?
Il a un peu réaménagé la destination des locaux de l'Élysée. D'abord, il avait une maison un peu plus fournie. Il avait un peu plus de monde que d'autres présidents, puisqu'il était un président effectif. Alors, d'autre part, les bureaux du rez-de-chaussée n'étaient pas du tout commodes, parce qu'en cas de réception, il aurait fallu enlever des papiers, etc. Alors finalement, il s'est installé complètement au premier étage, c'est-à-dire qu'il a mis son bureau, les bureaux de ses plus proches collaborateurs, au premier étage, dans un salon Louis XV, qu'on appelait le salon doré.
Alors, le général de Gaulle a, je crois, environ 45 collaborateurs, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et ce qui est assez peu, je trouve, pour un président de la République, son successeur Georges Pompidou, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, on aura près du double. Est-ce qu'on peut y voir l'idée que le général se fait de l'État ?
Ah, je crois qu'il y avait une idée force dans la tête du général, c'était de montrer qu'il économisait les deniers de l'État. Ça, il y tenait absolument. Maintenant, il faut dire aussi que l'État avait moins de tâches à accomplir qu'aujourd'hui. Les tâches de l'État ont gonflé d'une façon, en effet, même peut-être dangereuse. Un exemple, il y avait certains ministères qui n'existaient pas à l'époque. Le ministère de l'Environnement et toute l'administration de l'Environnement, ça n'existait pas. Alors ça fait déjà un secteur en moins. On pourra en citer d'autres.
Vous racontez également, à propos des collaborateurs, que quand quelqu'un lui est recommandé, le général lui soumet un véritable entretien de culture générale. En tout cas, c'est le cas par exemple de René Saint-Léger, qui fut conseiller diplomatique entre 64 et 69. Et à une époque où l'ENA forme déjà de nombreux hauts fonctionnaires, sur quels critères le général de Gaulle choisit-il ses collaborateurs à compétences égales ?
Bien, d'abord, c'est René de Saint-Léger lui-même qui écrit, mais avec une pointe d'humour, que le déjeuner auquel il avait été convié en préalable à sa nomination, il avait eu l'impression que c'était un examen de culture générale. Mais il faut encore voir qu'il y a de l'humour dans tout ça. Et il pensait qu'il ajoute de même que l'audience qui suivrait le déjeuner serait le contrôle des connaissances, mais l'oral de contrôle. Enfin, le général, oui, il aimait mieux avoir affaire à des gens cultivés, mais il leur demandait surtout, c'était un militaire, alors il voulait que chacun reste à sa place et connaisse parfaitement le sujet dont il avait à s'occuper. C'était ça, sa grande idée.
Oui, mais est-ce que justement le fait d'avoir pu servir dans la France libre était un argument majeur pour le général de Gaulle ?
C'était un argument, je ne suis pas sûr que c'était un argument majeur. Il y a un exemple illustre, Georges Pompidou, qui n'a pas servi du tout dans la France libre et qui a été avec le général au début à l'Élysée, qu'il a pris pour son intelligence et autres qualités, et qu'il a repris plus tard comme Premier ministre. Mais dire qu'entre deux collaborateurs d'égale compétence, oui, naturellement, le général avait une sympathie pour celui qui s'était battu.
Alors vous racontez également que le général de Gaulle n'est pas très porté sur les bavardages, justement avec ses collaborateurs. Alors comment communique-t-il avec eux ? Comment est-ce que ça se passe ?
Eh bien, il y avait que les ministres les plus importants, n'est-ce pas, qui avaient des entretiens particuliers. Et ses collaborateurs, il les voyait quand même le matin, les principaux collaborateurs. Mais c'était un homme de l'écrit. Et là aussi, il y a peut-être quelque chose de militaire. Il voulait des notes de service très précises. Et en plus, il était très attentif au style de ses notes. Il détestait qu'on emploie des formules toutes faites ou des formules à la mode, faire du forcing, donner le feu vert, des choses comme ça. Très attentif aussi, encore le militaire, au protocole, là comme ailleurs. Et par exemple, il lui arrivait dans les notes qu'on lui remettait de corriger les titres quand ils étaient inexacts. Tel inspecteur général, tel commissaire général redevenait parfois sous sa plume un inspecteur ou un commissaire tout court.
Alors ce qui est amusant, c'est que selon les annotations que le général porte sur ces fameuses notes de synthèse qui permettent justement de faire le biais avec ses collaborateurs, et finalement, ceux-ci savent s'il a lu en détail ou pas les notes et s'il y adhère ou pas, Claude Dulong, comment ? Parce qu'il a apparemment des annotations très précises.
Oui, il a des annotations très précises et parfois assez humoristiques. Alors quand les notes revenaient aux collaborateurs simplement tamponnées du cachet à croix de Lorraine dont disposaient les aides de camp et annoté par ceci d'un vu par le général, alors là on pouvait craindre que la note n'ait pas suscité un intérêt frappant chez le général. En revanche, s'il y avait un vu autographe porté en marge et suivi du paraphe C de G, ça signifiait que le texte avait été pris en considération. Après ça, il y avait le oui ou « m'en reparler » qui comblait d'aise les auteurs des notes. Et quand enfin les notes revenaient agrémentées d'un « oui, je le veux bien, je retiens l'idée », alors là, c'était le triomphe.
Alors justement, l'homme ne manque pas d'humour. Je fais notamment allusion à une des anecdotes que vous racontez dans votre livre à propos du président de l'UNEF, un certain Danton. Et après avoir lu le rapport que le fameux Danton dresse sur les réalisations multiples de son syndicat étudiant, voici ce qu'annote le général de Gaulle. Le petit Danton a de l'audace, encore et toujours de l'audace, mais ce n'est pas la même audace que celle qu'avait le grand Danton.
Oui, c'est exact.
Ce qui est quand même assez caustique comme réflexion. Est-ce que le général avait l'habitude, justement, d'avoir cet humour-là dans ses rapports de travail ou...
Oui. Il l'avait toujours dans les rapports de travail, comme dans les réceptions officielles ou mondaines. C'était d'autant plus drôle quand il faisait un mot que sa taille et son personnage étaient tellement importants et sévères d'une certaine façon. Alors ça donnait une force exceptionnelle à ces mots qui étaient si drôles.
Alors justement, comment est-il perçu par ses collaborateurs? Est-ce qu'on le craint? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il fascine? Qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais que les craintes, il n'y en avait pas beaucoup pour la bonne raison, comme vous le disiez vous-même, le choix avait été très sérieux au début. Et si ça n'allait pas, eh bien, on le faisait savoir.
Alors par ailleurs, on sent chez le général de Gaulle crainte de ne jamais être suffisamment informé par les voies officielles. Pour quelles raisons? Et a-t-il recours à d'autres biais pour obtenir des informations dont il a besoin?
Eh bien, justement, pour la raison que vous venez de dire, un chef d'État, en fait, n'est jamais suffisamment informé et il peut craindre qu'on lui cache des choses désagréables. Et c'est souvent le cas. Et c'était souvent le cas pour les présidents d'avant parce qu'ils n'étaient pas agissants, qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'agir sur les choses. Et tous ont dit, Auriol l'a écrit dans ses mémoires. Et le général voulait être absolument informé étant donné ses responsabilités. Et il faisait appel à des experts de certaines questions. Par exemple, Rueff lui a été très utile, Jacques Rueff, qui était un grand économiste.
Pour les finances.
Oui.
Alors on découvre aussi avec un certain étonnement que le général de Gaulle est plutôt un homme d'habitude, avec des rendez-vous quotidiens immuables. Vous racontez qu'il est si régulier que le commandant militaire de l'Élysée n'a qu'à regarder sa montre pour savoir où il se trouve.
C'est vrai.
Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, compte tenu des fonctions de président.
Oui, mais ça c'était le côté militaire. Vous savez, il n'a jamais fait autre chose dans sa vie qu'être un militaire. Alors, il arrivait à son bureau à 9h45, alors tout le monde savait en effet qu'il était 9h45, ce qui paraît tard d'ailleurs, étant donné tout ce qu'il faisait, mais c'est parce qu'il avait lu toute la presse dans son appartement, qui était au même étage. Et il trouvait sur son bureau les dossiers du jour, y mettait de côté ceux qui avaient besoin d'être étudiés plus longuement, et pour les autres, il communiquait éventuellement et brièvement ses observations aux spécialistes chargés de tel ou tel dossier. Il était tout à fait d'accord pour la pratique du Conseil des ministres, tenu le mercredi, qui était l'endroit et le lieu où il donnait ses directives à ses ministres, où il recevait d'eux des renseignements quand il ne les voyait pas personnellement pour un sujet critique, et où des entretiens avec le Premier ministre qu'il voyait deux fois par semaine en tête à tête, et il y avait deux autres ministres qu'il voyait en tête à tête, c'était le ministre des Affaires étrangères, et le ministre des Finances et celui des Armées, ça fait trois. Et je voudrais quand même ajouter que ça lui faisait une journée de 10 heures de travail et que s'il y avait en plus une réception le soir, ça faisait 13 ou 14 heures pour un homme de 70 ans. Mmh. Et pendant 10 ans et 4 mois, car il faut le juger sur cette distance qu'aucun autre président de la République n'a parcouru.
Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Retour d'éclairage consacré aujourd'hui à la vie de l'Élysée sous le général de Gaulle en présence de Claude Dulon. Nous parlions à l'instant donc des collaborateurs et des têtes à tête que le général de Gaulle avait avec certains de ses collaborateurs. Mais ce qui sans doute a marqué tout de même le mandat du général, c'est clairement le lien et l'importance qu'il accorde aux Français. On le sait méfiant à l'égard des parlementaires pourtant élus par le peuple, mais c'est lui qui qui le premier instaure le référendum, qui est l'expression la plus directe de la volonté populaire. Il y a recours 5 fois sous son mandat. Du coup, quel lien entretient le général de Gaulle avec les Français, Claude Dulon ?
Ah, c'est un lien essentiel parce que pour lui, sa vraie légitimité vient de l'accueil et de l'accord des Français. Et c'est normal, puisqu'il est élu au suffrage universel. Ça change la donnée, vous comprenez ? Il est vraiment responsable et il se sent responsable devant les Français. Comme il l'a dit, je ne suis pas là pour inaugurer les chrysanthèmes. Alors ça, c'est donc la grande nouveauté pour ceux qui avaient connu les républiques d'avant. Et c'est un peu ça qui a fait parler de pouvoir personnel. Les présidents d'autrefois étaient un peu devenus des potiches. Et si vous lisez les mémoires de Vincent Auriol, vous verrez qu'il s'en plaint constamment, et même quelquefois de ne pas être informé par les voies normales.
Mais c'est ce que prévoyait d'ailleurs la constitution de la 4e.
Oui, oui, oui. Et s'ils s'étaient allés porter au devant des Français comme de Gaulle, on les aurait accusés de sortir de leur rôle. Alors, tandis que le général, par les référendums, vous l'avez dit, par les voyages dans les provinces, voulait absolument aller à la rencontre des Français. Ça pour lui. Et je pense aussi qu'il en avait besoin. Ça lui redonnait de la force de voir ces acclamations.
Alors, rencontrer les Français, c'est aussi pour de Gaulle leur parler directement au travers de la télévision.
Ah oui, très important.
Il y a recours pour les décisions les plus importantes, mais ce goût pour les allocutions télévisées ne s'explique-t-il pas également par la méfiance qu'il nourrit à l'égard de la presse française ?
C'est possible. Oh, il était au plus mal avec Le Monde, comme vous savez. Boeuf Méry et lui, c'était le chien et le chat, je veux dire. J'ose à peine le dire, mais par moments, il appelait Le Monde l'immonde. Quand il était trop agacé. Il faut dire que Le Monde a été systématiquement hostile du début à la fin. Il y a même pas eu une pause dans l'hostilité, il y avait de quoi être agacé.
Et oui, surtout pour l'image à l'international de la France. J'imagine
et
que
oui,
ça devait...
Vous voyez, sans arrêt, de Gaulle acclamé par la France et combattu par le journal, le considéré comme le plus sérieux et même impartial. Alors, la télévision a été un moyen merveilleux pour lui, dont il s'est très bien servi, pour communiquer avec les Français. Il y a un mot assez drôle pour en revenir au voyage dans les provinces, c'est qu'une fois il allait en Bretagne et un de ses collaborateurs lui avait remis un dossier aussi copieux que le voulait la routine sur la Bretagne et de Gaulle s'est exclamé « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tout ça ? Je ne vais pas voir les Bretons pour leur parler de la Bretagne, je vais voir les Bretons pour leur parler de... » la France. Alors, il y avait cette gouaille, cette éloquence qui lui donnait un style absolument inimitable.
Alors, la chose paraît assez banale aujourd'hui, mais de Gaulle est aussi le premier président à inaugurer ce qu'on appelle les bains de foule. Et du coup, comment les services de sécurité font-ils pour assurer...
Ça, c'était le cauchemar. Ça a été vraiment le cauchemar pour les services de sécurité, surtout à partir du moment où l'affaire d'Algérie est devenue très difficile. Oui. Là encore, une certaine presse a dit que les attentats n'étaient pas vrais, mais c'était tout à fait vrai. Il y en a eu plus qu'on ne l'a dit. Alors... les déplacements si nombreux, l'habitude qu'il avait d'entrer dans la foule, c'était les services de sécurité étaient totalement sur les dents. La sécurité des présidents a été organisée quand même, il faut le dire, de façon systématique depuis l'assassinat de Sadi Carnot et de Paul Doumer. Parce qu'il y avait deux malheureux qui avaient été assassinés alors qu'ils ne pouvaient pas du tout être accusés de pouvoir personnel. Alors, on ne va pas énumérer toutes les...
Non, mais donnez-nous des exemples.
Eh bien, par exemple, la rue de l'Élysée, vous la connaissez, elle est très étroite et il y avait des égouts. Alors, on visitait tous les égouts de la rue de l'Élysée pour savoir s'il n'y avait pas des tueurs embusqués là-dedans et qui seraient sortis et qui auraient réussi à pénétrer par les sous-sols dans l'Élysée. C'est un des cas. Et on ne disait pas tout au général, parce qu'il aurait toujours dit « mais c'est trop ». Puis, il était tout à fait résolu à mourir s'il le fallait. Ça ne l'inquiétait pas comme militaire et croyant, parce qu'il y a cette dimension aussi.
Mais vous racontez aussi qu'il y a toute une vérification qui est faite. Vous racontez notamment que dans l'église de Notre-Dame, quand le général de Gaulle s'y rend, qu'en fait les services de sécurité vont jusqu'à contrôler les prêtres pour vérifier.
L'identité des cardinaux, voilà. Qu'il n'y a pas d'armes sous la soutane.
Voilà, oui, donc oui. Il y avait quand même tout un dispositif sécurité extrêmement élaboré.
Tout un dispositif. Vous savez qu'au moment, non, vous savez pas, vous êtes trop jeune, mais au moment de la libération, on lui a tiré dessus, tandis qu'il allait à Notre-Dame, justement pour le Tédéum. Mais le plus périlleux, c'était les déplacements.
Alors, c'est d'autant plus périlleux, je crois, que vous soulignez dans votre livre que comme Charles de Gaulle est un homme d'habitude, il a par exemple l'habitude d'aller le week-end à Colombey-les-Deux-Églises. En prenant donc toujours le même itinéraire, cela aurait pu donner de mauvaises idées à des gens mal intentionnés.
Eh bien, alors on changeait des itinéraires. par exemple. Mais vous savez, dans le cas de Bastien Thiry, par exemple, c'était quand même assez facile de poster des guetteurs et de voir vers quelle route allait prendre le général, parce qu'on pouvait quand même pas mettre des voitures de surveillance à tous les carrefours. Alors, quelquefois, on variait donc l'itinéraire pour Colombey, et souvent, on allait prendre un hélicoptère en plein champ pour éviter les aéroports.
En tout cas, De Gaulle semble avoir beaucoup de mal à accepter cette garde rapprochée. Pourquoi, à votre avis, Claude Dulon ?
Ah ben, ça devait l'agacer. Puis je crois qu'il avait vraiment, disons les choses, elles paraissent grandiloquentes, mais c'est vrai, il avait tout à fait fait le sacrifice de sa vie à la France. Après tout, un militaire, il aurait pu mourir à la guerre. Je crois que ça, c'était accepté. On n'a jamais pu l'empêcher de pénétrer dans les foules pour serrer les mains. Ça aurait été très facile de le poignarder. On voit bien sur les actualités la panique qui se peint sur le visage des gorilles, comme on disait.
Et pourtant, l'attentat du pont de Seine en septembre 61 va lui apporter la preuve de cette nécessité. Que se passe-t-il ce jour-là, Claude Dulon ?
Eh bien, les attentats, on s'en souvient encore. Pont-sur-Seine, le petit Clamart, et c'est un miracle que le général n'ait pas été blessé. Et d'ailleurs, il y avait dans la voiture Madame de Gaulle et le gendre du général, le général de Boissieu, et le chauffeur. Et je crois que si le général n'a pas pardonné à Bastien Thiry, puisque Bastien Thiry, l'organisateur, a été exécuté, c'est parce qu'il aurait accepté qu'on le tue tout seul, mais il a trouvé monstrueux qu'on tire sur une voiture où il y avait sa femme et son gendre.
Mais justement, à propos de l'attentat du petit Clamart, on retrouve 14 impacts de balles dans la carcasse de la déesse présidentielle, qui était en route pour Villacoublay. Outre le fait justement qu'on ait voulu attenter à sa vie, est-ce que ça ne pose pas problème au général de Gaulle de savoir que c'est un général de l'armée qui a été organisateur de cet attentat-là.
Bien entendu, que ce soit un militaire. Mais c'est que les militaires étaient très contre à cause de l'affaire d'Algérie. Ça a été dramatique pour eux.
Aujourd'hui, Jacques Chirac n'hésite pas à figurer dans les magazines populaires pour la naissance de son petit-fils, par exemple, ce qui n'est pas le cas du général de Gaulle, qui semble plutôt à cheval sur la discrétion de sa famille, notamment à l'égard de la presse. Quelle sera sa réaction quand le fils de Philippe, le fils aîné du général, apparaît dans les colonnes d'un journal à une terrasse de café avec un chanteur très connu dont on ne citera pas le nom sur cette radio.
Je vous signale que l'histoire est controuvée, mais je la tiens quand même de très bonnes sources. Je ne dirai pas laquelle. Eh bien, en effet, le jeune Charles de Gaulle, en plus il s'appelait Charles, a été photographié par un journaliste ravi de l'aubaine après un monôme du bac à la terrasse d'un café avec le tout jeune Johnny Hallyday. Alors, Charles de Gaulle Junior a été convoqué à l'Élysée. Les aides de camp qui trouvaient la chose très drôle, on refermait la porte du bureau du général le plus lentement possible pour essayer de comprendre ce qui allait se passer. Et ce qu'ils ont vu, c'est le général debout derrière son bureau et qui tendait la photo du journal comme ça à son petit-fils qui, le malheureux, avançait prêt au pire. Mais il y a une chose très drôle. Un membre de la famille m'a dit, qui avait lu mon livre, m'a dit « Cette histoire est très drôle, mais nous sommes obligés de vous dire qu'elle n'est pas vraie ». Alors, j'ai beaucoup réfléchi, car figurez-vous que je connaissais parfaitement un des aides de camp qui avait ouvert la porte ce jour-là. Et il n'avait pas pu inventer cette histoire. Alors, pendant très longtemps, je me suis dit, mais comment ça se fait que le père du petit jeune homme et que sa mère et que les autres disent c'est pas vrai? Eh bien, j'ai trouvé la solution, elle est très touchante. C'est que le général a convoqué son petit-fils pour lui laver la tête, mais il ne l'a pas dit à son père.
D'accord.
Je crois que c'est vraiment l'explication, parce que l'histoire est vrai, je peux vous le certifier personnellement.
Mais on vous croit. En tout cas, ce souci, ce sens de la discrétion est également partagé par Madame de Gaulle, qui pourtant exerce quand même les fonctions de première dame de France, ce qui n'est pas rien. Vous racontez dans votre livre, justement, une anecdote assez signifiante lorsque cette Madame de Gaulle emmène au château de Dampierre la femme de Harold Macmillan, qui est le premier ministre anglais venu convaincre le général de Gaulle de laisser entrer la Grande-Bretagne dans le marché commun. C'est presque d'actualité encore.
Oui.
Que se passe-t-il, justement ?
Madame de Gaulle a été chargée de distraire Madame Macmillan. comme elle se trouvait à Rambouillet, les entretiens se déroulaient à Rambouillet, elle l'a emmené tout près de là, visiter le château de Dampierre, qui est une très belle pièce historique, et qui appartient au duc de Luynes, qui appartenait, car le duc de Luynes est mort depuis. Et il y avait ce jour-là une chasse dans les terrains qui entourent le château. Alors, les deux dames n'avaient pas du tout prévenu de leur arrivée, puisque c'était une visite privée. Elles avaient naturellement un chauffeur et un détective. Et alors, le détective s'est présenté au guichet, parce qu'il y a des visites, pour dire c'est pour visiter. Et sans y voir malice, le guichetier a dit « Bon, bah, c'est 3,50 francs pièce, mais vous pourrez rester que dans le jardin, parce que le château, on ne peut pas le visiter, monsieur le duc reçoit. » Alors, la détective est retournée vers l'arme de Gaulle en disant « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Mais c'est très bien comme ça, vous payez, et nous allons faire un tour dans le jardin. » Et alors, les invités de la chasse, pendant le déjeuner, ont vu deux silhouettes de dames qui se promenaient dans le jardin. Et c'est le soir seulement que le concierge, qui était quand même, se disait « Mais j'ai vu cette tête-là quelque part », est allé dire au duc de Luynes « Ben voilà ce qui s'est passé. » Alors, vous voyez le drame, il s'est dit ça, il a écrit à l'Élysée pour s'excuser, enfin. Mais c'était le genre. Jamais, surtout le souci de la discrétion et jamais de faveur particulière. On paie ses places, on ne se fait pas inviter.
On se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
Canal Académie.
Reprise de l'émission Éclairage consacrée aujourd'hui à la vie à l'Élysée sous le général de Gaulle en compagnie de l'historienne Claude Dulon qui nous racontait à l'instant une anecdote fort intéressante sur Madame de Gaulle et sur son sens de la discrétion. On a également l'impression à la lecture de votre livre que finalement le général est très soucieux aussi de ne pas cultiver un certain népotisme.
Tout à fait. Voilà. Il avait dit au protocole « Vous inviterez mes enfants ». Deux fois par an.
D'ailleurs, la seule fois, je crois, qu'il fait intervenir, enfin, qu'il emmène dans un voyage officiel son fils, je crois que c'est en qualité d'aide de camp. Voilà, donc effectivement, a priori, pas
en de... Il n'y a aucun passe-droit pour la famille. Et j'ajoute, ce n'est pas sortir du sujet, que si vous avez lu le livre de l'amiral de Gaulle, le départ de la fin de Madame de Gaulle est vraiment quelque chose d'admirable. Elle a tout refusé. Elle est allée chez les sœurs habiter une petite cellule. C'est...
En tout cas, donc on parlait effectivement donc, du peu de népotisme dont fait preuve le général à l'égard de sa famille. En revanche, je crois que son neveu François de Gaulle est prêtre des messes de
oui,
l'Élysée,
hein, c'est ça.
Messe auquel le général assiste.
Oui, il a célébré des messes à l'Élysée quand il était en France.
Oui. Quelle place occupe la religion pour le général de Gaulle ?
Ah, il est croyant et pratiquant. Alors, vous dire ce qui se passait au fond de son âme, j'en serais bien incapable. Mais il observait les rites. Il allait à la messe à Colombey, il observait les rites. Il y a une chose qu'il faut peut-être dire. Il y avait un souvenir atroce dans la vie du couple de Gaulle et qui certainement les a inclinés plus vers la religion. C'était la mort de leur fille qui était, vous savez, pas tout à fait normale. Et ça a été une véritable croix pour eux. Et quand elle est morte à 18 ans, comme généralement ses enfants, il a dit, et on l'a enterrée à Colombey, il a dit « Maintenant elle est heureuse, maintenant elle est en paix ».
Le général de Gaulle, comme tout chef d'État, a peu de temps pour se divertir. Pourtant, cela doit lui arriver quelquefois. On sait que François Mitterrand, par exemple, adorait qu'on lui projette des films de cinéma dans les sous-sols de l'Élysée. Alors, comment le général de Gaulle choisit-il de se divertir, Claude Dulon ?
Oh, bah alors, quand on consulte la liste des sorties privées, je veux dire, c'est irrésistible. C'est dentiste, docteur, visite à la dépouille du général Untel qui venait de mourir, visite au maréchal Juin au Val-de-Grâce. qu'il était en train de mourir aussi. Et puis alors, la seule chose, quand il passait les soirées ou le week-end à Colombey, alors il aimait bien le cinéma. Alors on faisait passer des films, mais on n'osait pas, un peu à cause de Madame de Gaulle, montrer des films un petit peu osés. Et alors une fois, il s'est plaint qu'on lui avait montré 4 fois le Ballon Rouge.
Il est patient.
Qui est d'ailleurs très bien, mais enfin 4 fois, c'est beaucoup.
Vous citiez à l'instant les sorties du général, qui sont des sorties, après tout, très fonctionnelles et à la fois très engagées, puisqu'il rend visite à d'anciens militaires. Il a dû sortir, j'imagine, certaines fois en ville, même si la stature du personnage est assez imposante et de ce fait, on le distingue, je pense, très facilement. Mais quand même, est-ce qu'il lui arrive parfois de dîner en ville ?
Non, je vous signale qu'il a essayé quand même de sortir pour se promener, par exemple, au bois de Boulogne ou autre. C'était pas possible. Les gens, on le reconnaissait tout de suite à cause de sa taille. Alors les gens s'approchaient, prenaient des photos. Alors il a dîné quelquefois en ville chez ses enfants, bien sûr, ou alors chez ses principaux collaborateurs quand ils quittaient leur poste.
Vous soulignez dans votre livre qu'il va de temps en temps à la Comédie-Française, je crois.
Ah ben oui. Alors, il y avait des fois officielles, d'ailleurs. Un soir où il est allé pour voir Britannicus, c'était le soir du putsch à Alger, d'ailleurs.
Ah oui, effectivement.
Drôle. Mais oui, il allait à la Comédie. Il est allé une ou deux fois à la Comédie-Française. L'opéra, il n'aimait pas beaucoup. Il n'y allait que pour les soirées officielles. Et c'était toujours Carmen, la présentation du corps de ballet.
Parce que ce que lui aime, d'après ce que j'ai compris à la lecture de votre livre, c'est l'opérette.
L'opéra, non.
L'opérette.
Ah mais oui, il disait toujours, c'est-à-dire, là encore, est-ce que c'est vrai? Il avait tellement d'humour et il disait à Bernard Tricot, son chef de cabinet, « J'aimerais tellement voir Rosemary ».
C'était ce qu'il préférait?
Oh non, je crois que c'était une blague.
C'était surtout pour passer un bon moment.
J'aimerais tellement voir Rosemary, parce qu'en plus c'est tellement démodé, Rosemary.
Dans ses discours, le général fait souvent référence à des auteurs quand même assez incontournables, comme Dante et Goethe, qui n'est pas normal pour un fils de professeur de lettres lillois. Quelle importance accorde-t-il à la littérature, Claude Dulong?
Oh, énorme, énorme. C'était un écrivain, vous savez, on peut le relire maintenant, ça n'a pas pris une ride, c'est un style admirable, tout à fait nourri du style classique, Taine, Bossuet, enfin c'est vraiment très très beau, très beau. On peut le lire comme un grand auteur. Oh, il lisait Chateaubriand, c'était les grands Bernanos, enfin c'était les grands auteurs qu'il aimait, et Malraux évidemment.
Justement, Malraux, un des mérites, moi je trouve, du général de Gaulle, c'est d'avoir su s'entourer d'une personnalité aussi passionnante que celle d'André Malraux, son ministre de la Culture. L'art a toujours été utilisé pour souligner le prestige de nos dirigeants. Je suis désolée de reciter à nouveau une référence à François Mitterrand, mais par exemple, il a fait construire la pyramide du Louvre par l'architecte Py. Est-ce que de Gaulle avait des projets architecturaux d'envergure ?
Non. Malraux a fait une ou deux réalisations qu'il a acceptées. Mais vous savez, il faut se rendre compte que ça a été une présidence de combat. On n'avait pas beaucoup le temps de s'occuper du reste. Vous avez parlé des attentats, mais la situation était brûlante, presque jusqu'à la fin. Mais oui, il laissait carte blanche à Malraux, en fait, pour toutes ces choses.
Par contre, il a quand même une certaine idée de ce que l'art doit être.
Il n'aimait pas beaucoup l'art moderne, disons. C'était pas de son époque, c'était pas... Non, il n'aimait pas beaucoup.
En fait, il critique surtout l'art qui se couperait de l'humain. Je crois que c'était ça, sa préoccupation.
Oui, ça, c'est une très belle formule qu'il a employée. Et c'est ce qu'il reprochait à l'art abstrait, par exemple.
Quand le général de Gaulle quitte le pouvoir suite à l'échec du référendum sur la régionalisation et sur la réforme du Sénat en avril 1969, comment vit-il ces derniers moments à la tête de l'État, Claude Dulong ?
Ah, ça, c'est peut-être le plus beau passage de sa vie. D'abord, il a quitté l'Élysée avant le référendum. Il est parti pour un de ses habituels week-ends à Colombey,
à la boisserie,
sans dire un mot à ses collaborateurs. Le référendum devait avoir lieu le 2 avril 69 et il a laissé un message cacheté à un de ses fidèles, disant « Selon les circonstances, vous l'ouvrirez ». Et une fois le résultat connu, 53% de non. Alors la radio et la télévision ont interrompu leurs émissions pour lire le message que l'Élysée leur avait communiqué. Et les Français ont pu entendre le contenu, je me souviens de l'avoir entendu moi-même. C'était exactement ces deux lignes. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Charles de Gaulle. Paf, si je puis dire. On s'est trouvé un peu... Il aurait pu nous dire au revoir. C'est tout.
Il n'est jamais revenu à l'Élysée après ?
Il n'est jamais revenu à l'Élysée. On lui a envoyé ses quelques affaires qu'il avait là-bas. Il n'avait pas grand-chose. Mais je crois que J'ai dit, on aurait aimé qu'il nous dise adieu, mais je crois qu'il appréhendait ses adieux et que c'est en grande partie pour ça qu'il avait quitté l'Élysée le vendredi soir, avant le référendum, sentant déjà probablement qu'on criait 10 ans, c'est assez, etc. Sachant, je crois qu'il flairait que ça n'allait pas marcher. Puis il avait toujours eu l'art des belles sorties. Celle-là était définitive.
Et pourtant, il aurait pu rester président. Pourquoi avoir mis en balance l'issue de ces 2 référendums avec l'issue de sa propre carrière politique ?
Parce que, oui, il aurait pu rester au pouvoir. Rien dans la Constitution ne l'obligeait à quitter. Mais le peuple lui avait dit non, à une faible majorité. Mais il ne faut pas oublier que De Gaulle avait écrit « Pour moi, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu ».
Eh bien, je vous remercie pour cette très belle conclusion. Et si l'échec des 2 référendums ont sonné pour le général comme le rejet de sa politique, il n'en reste pas moins que son mandat aura marqué l'histoire de la France, en dotant d'abord notre pays d'une constitution qui gère encore nos institutions aujourd'hui. Plus encore, c'est sous son mandat que s'amorce le grand mouvement de décolonisation. Finalement, dans cette histoire, Claude Dulon, c'est sans doute Madame de Gaulle qui fut la plus heureuse, elle dont vous dites qu'elle a toujours eu le plus grand mal à se satisfaire des impératifs de représentation qu'exige le statut de première femme du pays.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.